Nous reprîmes d'un bon pas le chemin montant du retour. Les oiseaux dansaient toujours à la ceinture de mon père, et comme ils étaient pendus par le cou, je lui dis qu'il avait tué des bartavelles, mais que nous finirions par manger des cygnes. On les mit à la broche le lendemain. Ce fut un repas historique et presque solennel. Il fut marqué cependant par un incident pénible. L'oncle Jules, dont l'appétit paysan faisait l'admiration de la famille, se cassa une dent en porcelaine sur un plomb numéro 7 resté invisible dans la tendresse d'un croupion. Mais il retrouva un beau sourire lorsque mon père déclara que le curé du village était un savant et de plus un homme fort sympathique dont la conversation l'avait charmé. Le lendemain, comme nous partions pour la chasse, je vis que, renonçant à sa casquette, il avait mis un vieux chapeau de feutre marron à cause, dit-il, du soleil, qui parfois, en traversant ses lunettes, l'éblouissait. Mais je remarquai, sans rien dire, que la coiffe du feutre était entourée d'un ruban qu'on ne trouve pas sur une casquette, et que dans ce ruban étaient fichées deux jolies plumes rouges, symbole et souvenir du double coup du roi. Depuis ce jour-là, au village, quand on parlait de mon père, on disait « Vous savez bien ce monsieur des Belons ? Celui qui a la grosse moustache ? Non, l'autre, le chasseur, celui des Bartavelles. » Le dimanche suivant, comme l'oncle revenait de la messe, il tira de sa poche une enveloppe jaune. « Voilà, dit-il, de la part de monsieur le curé. » Toute la famille accourut. L'enveloppe contenait trois épreuves de notre photographie. C'était une réussite. Les Bartavelles étaient énormes, et Joseph brillait dans toute sa gloire. Il ne montrait ni surprise ni vanité, mais la tranquille assurance d'un chasseur blasé à son centième doublé de Bartavelles. Pour moi, le soleil m'avait imposé une petite grimace que je ne trouvais pas jolie. Mais ma mère et ma tante y virent un charme de plus et chantèrent longuement leur admiration totale. Quant à l'oncle Jules, il dit gentiment « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, mon cher Joseph, j'aimerais bien garder la troisième épreuve, car monsieur le curé m'a dit qu'il l'avait tirée à mon intention. « Si cette bagatelle peut vous faire plaisir, dit mon père. « Oh oui, dit tante Rose avec enthousiasme, je la ferai mettre sous verre et nous la placerons dans la salle à manger. » Je fus fier à la pensée que nous serions éclairés tous les soirs par la luxueuse lumière du gaz. Quant au cher Joseph, il ne montrait aucune confusion. Le menton de ma mère appuyé sur son épaule, il regarda longuement l'image de son apothéose, tout en justifiant la durée de cet examen par des considérations techniques. Il nous apprit d'abord que c'était du papier au citrate d'argent, que ce citrate a la propriété singulière de noircir quand il est touché par la lumière. Puis, tenant l'image à bout de bras, il déclara que l'éclairage était excellent, quoique la hauteur du soleil de midi lui eût un peu allongé le nez, ce qui, dit-il, n'a d'ailleurs aucune espèce d'importance. Ensuite, quittant ses lunettes, il examina la photographie de très près, sous tous les angles, et il proclama que la mise au point était parfaite, ce qui prouvait que monsieur le curé connaissait fort bien son affaire. Enfin, en me caressant les cheveux, il déclara « Puisque nous avons deux épreuves, j'ai bien envie d'en envoyer une à mon père pour lui montrer comme Marcel a grandi. » Le petit Paul battit des mains et moi j'éclatai de rire. Oui, il était tout fier de son exploit. Oui, il enverrait une épreuve à son père et il montrerait l'autre à toute l'école, comme avait fait M. Arnaud. J'avais surpris mon cher surhomme en flagrant délit d'humanité. Je sentis que je l'aimais davantage. Alors je chantai la farandole et je me mis à danser au soleil.